Bonjour mesdames, messieurs, et merci pour les mots gentils en avance. Ce matin, je vous présente deux choses. Une fois, une documentation des éditions précédentes, parce que aussi l'histoire des éditions n'est pas si facile. Et deuxièmement, je vous présente une explication du déroulement des jeux séculaires, de la cérémonie, comment elle est décrite dans les deux inscriptions et surtout dans l'inscription sévérienne. Alors, je commence avec les éditions précédentes. Voilà, vous voyez ici une carte de Rome à l'époque impériale. Et comme John Scheidt a déjà dit dans son introduction, on savait toujours par beaucoup de sources, soit des documents littéraires, des monnaies, que les jeux séculaires avaient eu lieu. Il y avait les jeux séculaires sous Auguste, 17 avant Jésus, après sous Domitien 88 et sous Septime Sévère 204. Et en plus, on savait que déjà au temps de la Respublica, il y avait eu des jeux qui étaient qualifiés comme jeux séculaires. Selon ces courses, les jeux séculaires avaient lieu au bord de Tibre, dans une région qui portait le nom Tarentum. Ça veut dire, sur notre carte, c'est au coin plus au nord-ouest du Campus Martius, ici. Est-ce qu'on voit le cœur, ça? Ah, voilà. Cet endroit, tout près du Tibre, jouait apparemment un certain rôle tant pendant la cérémonie des sacrifices que dans l'histoire des fragments épigraphiques qui nous restent. Ici, on voit une monnaie des jeux séculaires Domitien à gauche par... Oui, à gauche, par terre, le dieu Tibre tenant une corne d'abondance. Les inscriptions des jeux séculaires étaient placées dans une zone d'un autre risque d'inondation. Trois monnaies nous informent que les trois fêtes des jeux séculaires de l'Empire romain étaient documentées par des inscriptions. Voilà les monnaies, comme ils sont encore bien visibles, et il semble qu'une documentation des jeux était faite pour chaque fois par une inscription, comme ces trois monnaies nous montrent. Sur les trois monnaies, il y a une pierre, une inscription à voir. Et sur l'inscription, on peut lire Ludi Secularis, le consulat de l'empereur quand ils avaient lieu. Cet établissement d'une inscription pour les jeux séculaires, il y a une certaine raison. Dans l'histoire du mythe qui est répandu sous l'Auguste comme l'origine des jeux séculaires. Peut-être je vous raconte tout court ce mythe pour comprendre pourquoi il y avait toujours une inscription des jeux séculaires. Alors, c'est un vrai conte. Un noble du peuple sabin du village de Erétum du nom Valesius avait 3 enfants gravement malades. Une voix divine lui conseillait d'emporter ses enfants au Tarentum et les laisser faire boire l'eau du Tibre qui était chauffée sur un autel de Dispater et de Proserpina. Naturellement, le père Valesius, il avait peur. C'était vraiment des choses un peu sinistres, Dispater et Proserpina. Mais il obéissait, il embarquait ses enfants et faisait le voyage sur le Tibre direction Ostia. Le soir, il s'arrêtait pour passer la nuit là où il y avait le Tarentum, comme vous avez vu sur le plan avant. Et parce qu'on voyait monter la fumée là-bas, on s'arrêtait. On a appris que cet endroit était vraiment du nom de Tarentum. Valesius allumait un feu et donnait de l'eau du Tibre aux enfants qui s'endormaient et étaient guéris tout de suite. Mais il disait, quand ils étaient réveillés, que dans un rêve, un homme très grand comme un dieu les avait lavés et leur ordonnait de faire un sacrifice sur l'autel de Dispater et Proserpina pendant 3 nuits, et ensuite des courses de cheval, des chants, etc. Valesius ne voyait aucun autel, mais en creusant la terre pour faire les bases d'un autel, il trouvait un autel déjà enterré avec une inscription. Sur cette inscription, c'était « Odis Pater et Proserpina ». Alors Valesius a de nouveau érigé cet autel, a fait un sacrifice des bêtes noires, comme l'inscription l'ordonnait. Après le 3e sacrifice, il faisait aussi lui-même une note sur l'autel de ses sacrifices et il enterrait l'autel de nouveau et quittait l'endroit pour rentrer à la maison. Nous sommes toujours au bord du Tibre. Sur ce plan de Quarelli, nous voyons le lieu des jeux, le Tarentum, et en plus, on voit aussi la situation moderne. Dans l'Antiquité, la rivière du Tibre n'était pas consolidée comme aujourd'hui. Le terrain de Tarentum descendait doucement vers le Tibre et était une plaine d'inondations. Les inscriptions des premières fouilles sous la direction de Domenico Marchetti étaient trouvées assez proches du Tibre. C'est là où il y a ce point rouge. Les fragments sont été trouvés entre le pont San Angelo et le pont Vittorio Emanuele. Felice Barnabei publié en 1890 un premier rapport des fouilles. Par forme des fragments, il était tout de suite clair que les inscriptions des jeux séculaires n'étaient pas fixées sur des tableaux de marbre, mais étaient ciselées sur une sorte de pilier de marbre, comme on a vu sur les monnaies, des vrais piliers de marbre. Ici, le plan pour l'inscription des jeux séculaires augustéens de Barnabé, publié dans les Monumenta della Accademia dei Lincei, 1890. Pour les fragments sévériens, on supposait la même forme. Les premières fouilles ont mis en lumière 105 pièces en marbre de l'inscription sévérienne. Le texte des deux inscriptions est très fragmentaire. On supposait pour l'inscription augustienne environ 180 lignes, pour la sévérienne environ 200 lignes. Cette découverte en 1990 était une sensation. Et nul autre que Theodor Mommsen s'occupait d'une première édition des fragments augustéens, qui apparaissait déjà un an plus tard, en 1891, dans les monuments de l'Accademia dei Lincei. Un an plus tard, Mommsen publiait aussi un texte des fragments sévériens qui sont beaucoup plus mutilés. Ces deux publications sont intégrées dans les Gesammelte Schriften de Mommsen de 1913. Alors, quand le CIL apparaissait, c'est Hülsen qui gardait le texte de Mommsen pour les deux inscriptions, et le texte qu'on trouve aujourd'hui dans le CIL, c'est toujours le texte que Mommsen avait fait tout de suite après la découverte des fragments. Voilà encore une fois le Tarentum. À cause des problèmes techniques, les premières fouilles avaient des dimensions de seulement 20 à 4 mètres. C'est pas beaucoup. En 1930, on voulait construire un grand immeuble avec un parking souterrain, et la Soprintendenza di Antichità e Belle Arti décrétait de nouveau des fouilles. Malheureusement, le terrain des fouilles était encore plus petit, seulement une fosse de 2 à 2 mètres et de 9 mètres de profondeur était permis pour les fouilles. Mais on a quand même trouvé quelque chose, on a trouvé plusieurs pièces de l'inscription sévérienne. Et malgré ce succès, ce n'était pas possible d'élargir le terrain des fouilles d'importance. Ici, vous voyez l'immeuble qui a été construit. Et ici, dans ce coin, on a trouvé vraiment dans un coin de 2 à 2 mètres ces fragments sévériens. Le lieu de la découverte, c'est ce point rouge, pas loin des fragments de la première découverte. Les fouilles, encore d'autres fouilles de 1967 ont montré que la Via Recta, ici, qui mène de l'est à l'ouest dans le Campus Martius supérieur, s'arrête abruptement, ici, avant le Euripos. C'était un canal faire sortir l'eau du Campus Martius. Le pavement de travertin de la Via Recta est tout d'un coup fini. Il est bien possible que le terrain du Tarentum ici s'étendait jusqu'ici et que le virage du Euripus ici était dû à la situation du sanctuaire. Si la Via Recta donnait l'accès au sanctuaire du Tarentum, on peut supposer que les inscriptions étaient installées près de l'entrée du sanctuaire. Ici, vous voyez les fouilles de 1890 et 1930. Les pièces encadrées en rouge proviennent des premières fouilles et sont publiées dans le CIL. Les autres sont de 1930. Comme vous voyez, les découvertes de 1930 permettaient de compléter le texte énormément, mais seulement dans la partie inférieure. Il s'agissait de plusieurs édits concernant les jeux et les vénationes supplémentaires après les sacrifices et de la prière et du sacrifice de la troisième nuit et jour pour Terra Mater et ensuite Apollon et Diana. Et comme nous avons déjà entendu de Madame Gragnano, il y a aussi ce liste des Quinde Quim Viri avant le tirage au sort pour la participation aux jeux et aux jeux honoraires après les vrais jeux séculaires. En plus, la discussion du commentaire sévérien a seulement commencé maintenant après la grande découverte de 1930. En plus, 13 lignes ont rendu le Carmen Seculare d'un poète inconnu, pas comme dans l'inscription Augustus où il y a Carmen Composius, Composuit Quintus Horatius Flaccus. Ici, on a un poète inconnu et malheureusement, dans ce grand trou au milieu, il y avait le Carmen Seculare, à tel point qu'on ne peut pas restituer ce Carmen. Ensuite, il y a encore des lignes qui décrivent la procession au Capitole et des jeux au cirque, et tout en bas, les Celisternia, des matrones, des chants et danses avec les noms des participants. Sur la base des fouilles de Romanelli, Hülsen, de nouveau, a publié en 1932 un nouveau texte qui améliorait surtout la situation du texte inférieur de l'inscription sévérienne. Dans ce passage, on trouvait la seule représentation des sacrifices. Seulement maintenant, il était possible de voir le parallélisme des deux inscriptions sur le plan religieux. La représentation de tous les autres sacrifices est fortement mutilée, comme nous le verrons plus tard. Alors, maintenant, la recherche sur les ludi seculares connaît un essor sur le plan des rites. Les travaux de Dill livraient encore quelques améliorations du texte, tandis que Gagé s'occupait seulement des idées religieuses. Quelques chercheurs avaient même du plaisir de réécrire une version du Carmen Seculare mutilée. Pour réunir tous les résultats qui étaient publiés dans plusieurs journaux, Giovanni Battista Pigi a écrit un livre qui nous sert jusqu'aujourd'hui pour travailler sur les Ludi Secularis. Ce livre-là, c'est vraiment un livre très très important. Pigi a publié le texte des Acta Augustiana et Severiana, et en plus, il a intégré toutes les sources sur le phénomène ludi seculares. Et il a des chapitres de Origine Secularium, l'origine des jeux séculaires, des dix eritibus, les dieux et les rites des jeux séculaires, des séculis, sur les calculations des séries de jeux séculaires, des Carmine Sibylle, le chant de la Sibylle, des Personis et Locis, etc. Il a publié toutes ses réflexions en latin, à tel point qu'on n'utilise plus ce livre très utile et très détaillé. Et voilà, là vous voyez comme le texte est présenté chez Piggy, et à côté de récentes méthodes d'édition et à côté de nouvelles lectures et possibilités d'établissement de textes, il faut dire que le livre de Piggy devrait être renoué. Surtout, il manque une traduction du texte des inscriptions. Ce texte est de fort intérêt pour chercheurs des religions en général qui ne savent souvent plus de latin. Depuis les années 30 du siècle passé, les fragments étaient emmantelés en béton, comme nous avons déjà entendu, de telle manière que les bords étaient mal visibles. Il y a environ 20 ans que la direction du musée à faire libérer ces fragments du béton. Après, ils étaient jusqu'en 2014 fermés en caisse dans les dépôts du musée. Mais avec le nettoyage et la nouvelle exposition des fragments au musée des Thermes à Rome, quelques nouvelles lectures étaient possibles, et avec celles-ci aussi un nouveau texte dans quelques lignes. D'abord, une nouvelle édition était souhaitable pour les Actes augustiens parce que depuis l'édition de Piggy, plusieurs fragments déjà connus pourraient être intégrés dans l'ensemble d'inscriptions. Les fragments B et C sur ce plan. B et C. Sur ce plan de Luigi Moretti, on voit que la situation, surtout au début du texte, pourrait être améliorée. Après les travaux préliminaires de Luigi Moretti et Maria del Cavallaro, le texte d'un Senatus Consultum pourrait être établi. Le résultat était la nouvelle édition du texte augustien qui livrait à côté de l'intégration de tous les fragments aussi quelques nouvelles lectures, une traduction du texte, un apparatus criticus, un commentaire qui explique ce texte difficile à comprendre. Et voilà, c'était ma dissertation, comme vous avez déjà entendu. Pour les recherches de l'inscription augustienne, il n'était pas possible de faire une autopsie des fragments, parce que les fragments étaient encore dans les dépôts du musée depuis des années. Pour l'édition, j'ai travaillé avec de bonnes photos du Institut archéologique allemand de Rome. La situation changeait quand le Musée national de Rome ouvrait ses dépôts pour réaliser un projet ambitieux. Ça veut dire d'installer une salle au musée qui est uniquement dédiée à la religion romaine, avec l'exposition des inscriptions religieuses comme les Acta Arvalia et les deux kipi des jeux séculaires. Et maintenant, je vous montre encore quelques photos de l'installation pour que vous voyez comme c'était compliqué. Déjà, en 2010, John Scheidt m'a encouragé de reprendre les recherches, aussi pour l'inscription sévérienne. Donc, tout le monde s'est conscient que la situation est beaucoup plus compliquée. Ici, on voit du dos Rosanna Frigeri, qui avait la ténacité de faire avancer ce projet malgré de beaucoup d'obstacles. Ces travaux à Rome étaient pour moi l'occasion de répandre le travail sur les jeux séculaires et je pourrais en plus soutenir l'équipe du musée dans les questions de position des fragments. En été 2014, les fragments très lourds sont en train d'être fixés sur un échafaudage en acier. On voit bien l'épaisseur des blocs en marbre par terre. Devant l'inscription sévérienne, derrière l'échafaudage de et l'inscription augustien. Ici, avec l'échafaudage très épais, c'est pour l'inscription sévérienne. Ici, l'échafaudage pour l'inscription augustienne. Et ici, vous voyez comme ils ont travaillé les fragments de marbre de l'inscription augustienne. Ici, sont beaucoup plus grands que ceux de l'inscription sévérienne. Et c'est pour ça la lecture posait aussi moins de problèmes. Vous voyez, les fragments sont posés, fixés, vissés sur cet échafaudage en acier. Et après la fixation des fragments, ici c'est de nouveau l'inscription sévérienne. Après la fixation des fragments sur ce cadre en acier, les cavités sont remplies avec une masse synthétique et à la fin du travail, les fragments se montrent intégrés dans un bloc comme l'inscription était dressée dans le Tarentum. Et voilà, le 24 septembre 2014, le Chiostro Piccolo della Certosa di Santa Maria degli Angeli était inauguré. Dans le cloître sont à côté des inscriptions des jeux séculaires les tableaux des actes d'Arval. Alors, ici encore une fois l'ensemble de toute l'inscription. Voilà cette. La première partie pour la situation et les éditions précédentes.